Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. Protégez-vous. Au programme, chocolat noir, au lait, bio, équitable ou cru. Alimentation, s'informer sur les produits controversés. Et 8 grands principes pour une saine alimentation. Bonne écoute.
Chocolat noir, au lait, bio, équitable ou cru. Texte par Jean-François Gazaille, du 8 avril 2022, tiré de la revue Protégez-vous. Du chocolat, vous en mangez à Pâques, bien sûr. Mais vous en offrez ou en recevez aussi à la Saint-Valentin, à l'Halloween, à Noël et bien d'autres jours de l'année. Cela dit, tous les chocolats ne s'équivalent pas. Il y a un monde entre la bonne vieille Kit Kat qui nous dépanne en cas de fringale et les fines bouchées préparées par votre artisan préféré. Un monde. Voyons voir. Un bon chocolat, non aromatisé, ne devrait pas comporter plus de 3 ou 4 ingrédients, selon Catherine Goulet, propriétaire d'Havana, une chocolaterie bean to bar, c'est-à-dire qui s'approvisionne directement auprès des producteurs ou des coopératives de cacao culteurs. Mon chocolat noir ne contient que 2 ingrédients, de la pâte de cacao bio et du sucre bio. Point, dit-elle. Vous ajoutez un peu de poudre de lait à la recette, ça donne du chocolat au lait. Vous combinez beurre de cacao et lait, vous obtenez du chocolat blanc. La teneur en cacao est très élevée dans le chocolat noir, 70 à 90%, plutôt faible dans le chocolat au lait, 10 à 25%. Le blanc, lui, ne contient pas de cacao. Adieu flavonoïdes, ces antioxydants qui aident à fluidifier le sang et à réduire la tension artérielle. Vous êtes amateur de chocolat belge? Sachez qu'au Québec, il s'agit d'une allégation normalisée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui sous-entend que le chocolat a été produit en Belgique. Elle ne dit rien sur ses propriétés gustatives. Les appellations pur beurre de cacao et chocolat traditionnel ne sont régies qu'en France et signifient que le chocolat est exempt de toute graisse végétale. Les additifs superflus. Certains noms viennent souvent allonger la liste des ingrédients des tablettes vendues en épicerie. L'un des additifs aromatiques naturels les plus fréquents est la vanille. Elle rehausse le goût de certains chocolats fins et en donne carrément au chocolat blanc. Quant à la vanilline, il s'agit d'un additif synthétique qui imite l'arôme de la vanille. Les torréfacteurs industriels y ont abondamment recours, selon Elfie Maldonado, copropriétaire de Cantu, une autre chocolaterie Bean to Bar de Montréal. C'est pour une question de constance, précise-t-il. Ça uniformise le goût des fèves qui proviennent de plusieurs endroits différents et ça coupe l'amertume parce que le cacao est très fortement torréfié. Certaines marques populaires enferment de l'extrait d'orge malté, laquelle sert à la fois de rehausseur de goût, de colorants naturels et d'édulcorants. Comme cet additif contient du gluten, les gens souffrant de la maladie cœliaque doivent l'éviter. 2 matières grasses végétales entrent aussi dans la confection de presque tous les chocolats industriels. Extraite du soja, la lécithine agit comme liant. Bien qu'elle soit présente en quantité infime, elle peut provoquer des réactions chez les personnes fortement allergiques au soja. Et quant à l'huile de palme, elle est mauvaise pour vos artères et sa production à grande échelle contribue à la déforestation dans les régions tropicales. Enfin, quand vous ferez vos emplettes pour Pâques, lisez attentivement la liste des ingrédients du gros lapin à 20 $ que vous comptez offrir à votre plus jeune. Vous y noterez sûrement la présence de paraffine, Ce sous-produit pétrolier, également utilisé comme laxatif, est ajouté au chocolat pour préserver sa solidité à la température ambiante et lui donner son lustre. Et certaines marques bas de gamme en utilisent encore, déplore Elfie Maldonado. Ça ne devrait pas s'appeler chocolat, mais plutôt friandise au chocolat. À l'autre bout du spectre du chocolat, il y a désormais le chocolat cru. On le qualifie de cru parce qu'il est issu du broyage de fèves non torréfiées. Cette méthode préviendrait la destruction des vitamines, minéraux et antioxydants naturellement présents dans le cacao. Or, rappelle Catherine Goulet, la torréfaction du cacao, comme celle du café, contribue à en faire ressortir les arômes. Le chocolat cru, c'est un autre produit, résume-t-elle. Il a peut-être plus de propriétés, mais il n'y a pas encore d'études claires là-dessus. Un marché mondial loin d'être équitable. De nos jours, savourer un morceau de chocolat n'est plus simplement une partie de plaisir, ça peut devenir un cas de conscience pour les tenants de la consommation responsable. Chaque fois que vous croquez dans une tablette, vous devenez partie prenante d'une vaste industrie mondiale qui pèse plus de 150 milliards de dollars américains, dominée par des multinationales européennes comme Nestlé, Ferrero, Barry Gallobo, qui a une usine à Saint-Hyacinthe, et américaines telles Hershey et Cargill. Ces géants accaparent bon an mal an 80% des récoltes de cacao. Le gros production mondiale provient d'Afrique de l'Ouest, essentiellement de la Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays qui empochent moins de 1% des revenus de l'industrie. Plus de 90% des cacaoculteurs sont des paysans qui touchent en moyenne moins de 1 dollar US par jour et sont soumis aux aléas d'un marché qu'ils ne contrôlent pas puisque, à l'instar du café, l'or brun est coté en bourse. Quand un acheteur s'arrête devant chez eux avec son camion, ils n'ont aucun moyen de connaître le cours du cacao, dit Catherine Goulet. En outre, deux fléaux ternissent de plus en plus l'image de l'industrie, le travail forcé des enfants en Afrique de l'Ouest et la déforestation de dizaines de milliers d'hectares, souvent dans des réserves naturelles. Commerce équitable et culture biologique. Depuis une vingtaine d'années, des multinationales aux modestes artisans, l'industrie s'affaire à préserver sa réputation en obtenant une certification, surtout en matière de commerce équitable. Les initiatives prolifèrent, dit Marie-Claude Desjardins, professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, même si j'étudie ça depuis des années. Administré par une ONG internationale basée en Allemagne, le label Fair Trade est sans doute le plus connu. Depuis 25 ans, il est estampillé sur une foule de produits, dont le chocolat. Vous verrez aussi de plus en plus le symbole des petits producteurs SPP. Créé et géré par des organisations paysannes, ce label assure aux agriculteurs certifiés des revenus supérieurs à la moyenne en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Vous devez aussi compter avec des certifications bricolées par les multinationales elles-mêmes, comme Nestlé Cocoa Plan, Cargill Cocoa Promise, Mondelez Cocoa Life et Cocoa Horizons, Barry Gallobo. Quels sont les labels les plus crédibles? Je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas, parce qu'on ne connaît pas le cahier de charge de tous les labels, reprend Marie-Claude Desjardins. Il y a sans doute un peu de greenwashing ou de fairwashing dans tout ça. Catherine Goulet estime que la certification Fairtrade s'est un peu ternie ces dernières années. C'est un bon logo, mais ça ne veut pas forcément dire que le cacao était produit dans de meilleures conditions. Hormis en France, le commerce équitable n'est pas une appellation réglementée. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que tous ces efforts peinent à modifier les habitudes de consommation. Le cacao dit équitable ne représente que 0,5% de la production mondiale. Mince consolation, 16% du chocolat dégusté en Allemagne est issu de cette filière. Selon Marie-Claude Desjardins, faute de toute autre information sur l'origine du cacao, fiez-vous à la certification bio. C'est une norme bien établie au Canada comme au Québec, assure-t-elle. Contrairement au commerce équitable, la production bio est normalisée dans la plupart des pays et c'est une certification qui a une réelle valeur commerciale, soutient Elfie Maldonado. Si le cacao est à 2,90 $ le kilo à la bourse, les producteurs vont toucher 3,50 $. Au-delà des certifications, vous pouvez aussi vous tourner vers ces artisans bean to bar qui torréfient et transforment eux-mêmes leurs fèves de cacao. Achetées à un prix équitable supérieur au prix courant, majoré d'une prime sur la qualité, précise Catherine Goulet, qui verse une avance de 50% du prix à l'achat, puis 50% à la livraison. Les propriétaires du Cantu, Elphine Maldonado et Maxime Simard, achètent sans l'intermédiaire d'un courtier. Ils se rendent deux fois par année au Pérou pour choisir leurs fèves. On ne paie jamais moins de 5 $ le kilo, soit deux fois le cours actuel. Dans le fond, c'est la base du commerce équitable, mais à plus petite échelle, résume Mme Desjardins. Les petits torréfacteurs ont une relation directe avec les producteurs. Peu importe la boutique où vous ferez vos provisions pour Pâques, il ne faut pas, selon elle, hésiter à poser des questions au chocolatier. S'il ne sait pas d'où vient son chocolat, il y a un problème, dit-elle. Je n'aimerais pas acheter à mes enfants du chocolat confectionné à partir de fèves de cacao récoltées par d'autres enfants. Les indices d'un bon chocolat. Liste courte d'ingrédients. Pourcentage élevé de cacao. Terroir unique. Certification bio. Certification équitable et marque indépendante ou locale. Une poule, oui, mais à quel prix? Disons que vous préférez une poule au chocolat au lait. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez en quelques clics comparer les prix des marchands. Mais tous n'affichent pas les ingrédients et la provenance de leur cacao, et dans les grandes surfaces, le prix au 100 grammes varie entre 3 et 7 $ et entre 7 et 11 $ dans les chaînes de chocolaterie. Manifestement, les petits chocolatiers indépendants ne travaillent pas tous avec la même matière première, puisque certains affichent des produits dans la même gamme de prix que les grandes surfaces, 2,50 $ à 8 $ les 100 grammes, alors que, chez d'autres, les chocolats moulés se vendent entre 18 et 28 $ les 100 grammes. C'était « Chocolat noir au lait, bio, équitable ou cru », un texte écrit par Jean-François Gazaille du 8 avril 2022 de la revue « Protégez-vous ». Alimentation, s'informer sur les produits controversés, par Cindy Grapp, 30 mars 2023, tiré de la revue Protégez-vous. En apprenant davantage sur la production de certains produits, vous pouvez faire des choix plus éclairés et encourager des pratiques plus durables et équitables dans l'industrie. L'huile de palme, le cacao, les amandes et les avocats sont quelques exemples de produits qui suscitent des préoccupations en matière de durabilité environnementale et sociale. L'huile de palme. L'huile de palme se trouve dans beaucoup d'aliments industriels du quotidien et son utilisation est devenue une source majeure de déforestation et de perte de biodiversité dans le monde. Il existe certes des certifications de type huile de palme responsable, mais elles s'avèrent peu fiables et ont peu d'impact. Le cacao. Consommé le plus pur possible, le cacao est un aliment sain qui présente de nombreux bénéfices pour la santé. Mais sa production est aussi liée à des problématiques de déforestation, de travail des enfants, de corruption et de précarité des travailleurs. Privilégier les producteurs locaux, les labels équitables, les produits indiquant la provenance du cacao et modérer votre consommation tout en vous faisant plaisir. Les amandes. Les amandes ont un d'impact environnemental non négligeable en raison de l'importante quantité d'eau nécessaire à leur culture. Une seule amande requiert pas moins de 4 litres d'eau. De plus, 80% des amandes vendues dans le monde proviennent de la Californie, une région qui, bien qu'elle souffre d'un manque chronique d'eau et connaisse des périodes de grande sécheresse, consacre 10% de son eau à la culture des amandes. Si vous êtes un buveur de boissons végétales, préférez les boissons de soja, de chanvre, de riz ou d'avoine. Les avocats. Au Mexique, certains agriculteurs plantent clandestinement des avocatiers au milieu de la forêt, menaçant ainsi la faune et la flore locale. De plus, comme les amandes, les avocats sont extrêmement gourmands en eau et en pesticides. Même s'ils ont d'excellentes valeurs nutritives, consommez-les avec modération. Le saviez-vous? Dans une liste d'ingrédients, l'huile de palme peut aussi porter les noms suivants: huile ou graisse végétale, graisse palmiste, mono ou diglycéride d'acide gras, oléine de palme, stéarine de palme, monostéarate de glycérol ou encore sucre au ester d'acide gras. Texte Alimentation, s'informer sur les produits controversés, par Cindy Grapp, daté du 30 mars 2023, tiré de la revue Protégez-vous. Huit grands principes pour une saine alimentation, par Catherine Crépeau et Florence Dujoux, daté du 7 décembre 2022. Gavé d'informations sur la nutrition, vous ne savez plus quoi manger. Pour vous aider à y voir plus clair, Protégez-vous vous résume les principes du dernier guide alimentaire canadien. Tous les jours, les médias divulguent des conseils portant sur une saine alimentation ainsi que des résultats d'études scientifiques sur la nutrition. Cette surabondance d'informations, combinée à la multiplication des produits en épicerie, amène les consommateurs à accorder une importance démesurée à leur assiette et, pour certains, à angoisser sur le type d'aliments et de nutriments qu'ils devraient manger, en quantité, à quel moment, etc., etc. La clé est pourtant simple. Miser sur les aliments de base et prendre le temps de les cuisiner et de les apprécier. Une vision conviviale de l'alimentation. De nombreuses études publiées au cours des 15 dernières années ont montré, entre autres choses, que le fait de cuisiner et de manger en famille améliore les habitudes alimentaires, entraîne une hausse de la consommation de fruits et de légumes chez les adolescents et favorise le sentiment d'appartenance à la famille. À l'inverse, manger devant la télé ou l'ordinateur incite à consommer davantage d'aliments et à le faire plus rapidement. Votre attention étant tournée vers l'écran, vous seriez sourd aux signaux indiquant que votre faim est comblée. L'idée est de miser sur le plaisir de manger et de cuisiner des aliments de base sans vous préoccuper à outrance de leur contenu en nutriments. Sus aux aliments ultra transformés. Le guide alimentaire canadien délaisse la notion de groupe alimentaire et s'attarde plutôt au degré de transformation des aliments. En effet, il a été démontré que les populations qui cuisinent davantage à partir d'aliments frais et peu raffinés ont une meilleure santé et moins de maladies chroniques telles que l'obésité. Il est recommandé de limiter les aliments hautement transformés qui fournissent un apport excessif en sodium, en sucre ou en graisse saturée. Pour la première fois, le guide alimentaire identifie des aliments à consommer avec modération. les boissons sucrées, les sirops et les confitures, le chocolat et les friandises, les croustilles et les bretzels, la crème glacée et les desserts surgelés, les sauces, les vinaigrettes et les jus de viande, les aliments minutes tels que frites et hamburgers, les repas surgelés comme les plats de pâtes et les pizzas, les produits de boulangerie tels que muffins et gâteaux, et les viandes transformées comme les saucisses et les produits de charcuterie. Ces directives ont été inspirées par des exemples venus d'ailleurs, notamment le classement NOVA, proposé par des chercheurs brésiliens en collaboration avec Jean-Claude Moubarak, chercheur en nutrition à l'Université de Montréal. Ce classement sépare les aliments selon leur degré de transformation à partir de la pomme jusqu'à la tarte aux pommes du commerce, à laquelle sont ajoutés sucre, colorants artificiels et agents de conservation. Les aliments devraient être choisis en fonction de leur degré de transformation. Le yogourt nature plutôt que celui aux fruits contenant du sucre ajouté, ou la poitrine de poulet que vous assaisonnez à la maison au lieu du poulet mariné ou pané. La règle vaut aussi pour les végétariens, qui ont accès à de plus en plus d'aliments ultra-transformés, pizza, tranches de jambon sans viande et autres bouchées de légumes panés. Remplacez-les par une pâte maison garnie de légumes, par des légumineuses et des légumes grillés. La fin des portions. Le concept des portions, avec lequel beaucoup ont grandi sans savoir comment l'appliquer, a disparu du dernier guide alimentaire. Les nouvelles recommandations sont de remplir la moitié de son assiette de fruits et de légumes. L'autre moitié devrait être partagée à part égale entre les protéines et les produits céréaliers, de préférence à grains entiers, pour leur apport en fibres, ou les féculents, par exemple des pommes de terre. Autre notion clé, la variété. Manger des légumes, c'est bien, mais si vous vous limitez au brocoli et à la carotte, vous vous privez de la richesse en vitamines et en minéraux des tomates, betteraves, choux, poivrons et multiples autres légumes. Alternez les variétés d'un repas à l'autre, d'une journée à l'autre et d'une semaine à l'autre. Même chose pour les fruits, les pains à grains entiers et les légumineuses. Pour ce qui est des protéines, privilégiez celles de sources végétales comme les légumineuses, le tofu, le soja, les arachides ou le quinoa. Leur consommation régulière permet de diminuer l'apport en gras saturé et d'augmenter celui en fibres, ce qui se reflète par un meilleur contrôle du taux de sucre dans le sang chez les personnes diabétiques ainsi qu'une diminution du taux de cholestérol et du risque de maladies cardiovasculaires qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Des recherches montrent aussi que les légumineuses et les produits de soja contribuent à protéger contre le cancer colorectal. Le poisson devrait être présent dans votre menu au moins 2 fois par semaine, puisqu'il fournit de la vitamine D et de bons gras, dont les oméga-3. Ces derniers diminuent les risques de maladies cardiovasculaires et favorisent le développement du cerveau des enfants et aussi celui de la vue. Privilégiez la volaille et consommez la viande rouge avec modération. Cette dernière contient des gras saturés qui sont liés à une augmentation du risque de maladies cardiaques et de certains cancers, dont celui du côlon. Les produits laitiers, par leur apport en calcium, ont aussi leur place au quotidien. Même si des études menées au cours des dernières années ont montré qu'ils avaient peu d'effet dans la prévention des fractures et de l'ostéoporose, le lait et les produits laitiers restent une bonne source de calcium, lequel est essentiel à la formation et au développement des os et des dents chez les enfants. Chez les adultes, le calcium contribue à normaliser les battements du cœur et à réguler la pression. Quant à ceux qui s'inquiètent pour leur cœur, les récentes études semblent indiquer que le gras des produits laitiers a peu d'influence sur le risque de maladies coronariennes précoces. Les produits laitiers fermentés comme le yogourt pourraient même être associés à un plus faible risque de diabète de type 2. Les proportions des aliments qui composent notre assiette valent aussi pour les enfants. Quant aux quantités, elles devraient être dictées par votre appétit. Des recherches indiquent que trop manger est un des principaux facteurs de risque de développer des maladies chroniques courantes comme l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires ou des cancers. Des trucs pour reconnaître vos signaux de satiété. Prenez votre temps pour manger ou mastiquez bien chaque bouchée. Vous pouvez aussi vous servir de petites portions, quitte à vous resservir si votre appétit n'est pas comblé. Parions que si vous devez vous lever de table pour regarnir votre assiette, vous prendrez le temps d'évaluer si vous avez encore faim. 8 grands principes. Le premier, cuisinez le plus souvent possible et partagez vos compétences culinaires, notamment avec les enfants. 2. Préparez vos repas à partir d'aliments de base ou peu transformés, principalement de sources végétales. 3. Privilégiez des légumes et les fruits cultivés localement ou transportés sur de courtes distances, incluant les produits surgelés. 4. Variez votre alimentation et vos choix dans chacun des groupes alimentaires. Plus il y a de couleurs dans votre assiette, plus votre menu est diversifié. 5. Mangez à des heures régulières, si possible en bonne compagnie, dans des endroits appropriés, calmes, agréables et sans écran. 6. Soyez conscient des stratégies publicitaires des entreprises agroalimentaires qui cherchent à promouvoir leurs produits. 7. Organisez votre horaire pour accorder du temps et de l'importance à la planification et à la préparation de vos repas. 8. Ne visez pas la perfection. Misez plutôt sur une amélioration de votre alimentation et l'adoption de saines habitudes. C'était 8 grands principes pour une saine alimentation par Catherine Crépeau avec Florence Dujoux du 7 décembre 2022, tiré de la revue Protégez-vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.